CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. On va s'intéresser aux abeilles cette fois avec une conférence que vous pourrez suivre ce 13 novembre à l'école Rucher, au Rucher École plus précisément, de Rocamadour. Il y aura une partie le matin pour ceux qui sont passionnés d'apiculteurs, qui sont eux-mêmes apiculteurs d'ailleurs entre parenthèses. Et puis l'après-midi, ça sera ouvert effectivement à tout le monde où vous pourrez vous renseigner sur l'apithérapie. Alors parlons des abeilles, parlons de la récolte de miel, parlons du rôle des abeilles. Parlons et de cette conférence, voilà, avec notre invité aujourd'hui qui est membre du Rucher École, Philippe Labarthe. Vous êtes sur CFM Cahors, bienvenue, c'est l'heure de votre mag. Rendez-vous le 13 novembre à la Bastille de Murat, c'est une conférence sur l'apithérapie que nous propose le Rucher École de Rocamadour. Et parmi ce Rucher École, eh bien, il y a Philippe Labarthe qui est avec nous et membre du conseil d'administration. Bonjour Philippe. Alors, Rucher École de Rocamadour, en quelques mots, c'est un endroit où on forme les apiculteurs et tous ceux qui veulent s'y mettre ?
Voilà, exactement. C'est une association, loi 1901, qui œuvre sur la commune de Rocamadour, exactement aux pêches de Gourbière, qui est un établissement pour personnes handicapés adultes et qui nous accueille gratuitement depuis de nombreuses années.
Alors, est-ce qu'on peut se faire un petit point d'ailleurs sur les abeilles, vous en tant qu'apiculteur amateur forcément, puisque pour faire partie de ce Rucher École, c'est que vous êtes passionné par les abeilles. On a dit qu'avec la météo assez humide de cet été, la récolte de miel n'est pas si terrible que ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez remarqué?
Alors c'est un des paradoxes du Lot et puis du Caus notamment. C'est que cette année, ça a été une très bonne récolte, contrairement au reste de la France, où la météo a été très froide. Enfin, tout a été contre la récolte de miel, au printemps notamment. Et puis, nous, on a eu une récolte très importante au mois de juillet. Alors, sur le Caus notamment, et sur Gourdon et tout ça. C'est des amis apiculteurs qui n'ont jamais eu autant de miel que cette année.
Et comment ça se fait d'ailleurs? Parce que la météo a été la même un petit peu partout. Ça a été assez humide d'ailleurs cette année.
Oui, ça a été humide, mais je pense qu'à quelques degrés près et quelques jours de beau temps près, ça a suffi à faire reverdir et refleurir la nature au mois de juin. Et ce qui fait que les abeilles ont travaillé très fort chez nous. Moi, je suis sur le Caus. J'habite à côté de la Bastille de Murat, à Vaillac. Donc c'est le Caus, Caus de Gramat. Et j'ai eu du miel alors que depuis 3 ans que je suis apiculteur amateur, je n'ai pas de miel. Donc c'est la première année où j'ai du miel.
Alors est-ce qu'il est de qualité au moins ?
Voilà. Pardon ?
Est-ce qu'il est de qualité au moins ?
Alors il est très liquide. C'est un miel qui est... Alors ça c'est une des caractéristiques que l'on a entre nous. C'est un miel assez liquide, donc qui contient probablement un peu plus d'eau. Mais qui est très fleuri, qui sent très bon. Moi, j'ai un miel de Saint-Foin qui est très bon. Ouais.
On rappelle juste même s'il y a l'appellation miel de France, par exemple, dans les rayons de nos magasins, la plupart du temps, c'est très souvent des pays étrangers, quoi. Non, on est d'accord.
Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. La France. A été depuis très longtemps un pays de miel, mais depuis pas mal d'années ne fournit plus assez par rapport au sommet. Et donc c'est du miel importé, des pays de l'Est, de Chine, enfin avec la piètre qualité et puis la traçabilité un peu aléatoire qui s'ensuit, quoi.
Le frelon,
très peu de miel de France, quoi.
Le frelon asiatique a-t-il fait des dégâts aussi dans le Lot?
Alors c'est pareil, ça dépend beaucoup des régions du Lot. Cet été, il n'y en a pas eu sur le Caus, enfin très peu. Par contre, là, il y en a beaucoup maintenant. Et puis sur d'autres régions du Lot, un peu plus humides, bord de Dordogne, etc., où il y a eu beaucoup de frelons asiatiques, au mois de juillet, au mois de juin, etc. Mais bon, ça, c'est très, très variable. Mmh. On a toujours pas compris pourquoi. Je ne sais pas, on ne peut pas répondre à ça. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, nous, sur le COS, on n'en avait pas beaucoup. Et là, maintenant, il réapparaît. Bon, il ne fait pas trop de dégâts parce qu'on les piège quand même. On ouais. arrive à les piéger. Mais ça, c'est un vrai fléau, ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas le principal fléau. Hey. Le principal fléau, c'est la météo. Ça a été, pour le miel, hein, j'entends, mais pour les abeilles, c'est le varroa. C'est l'infestation par le varroa qui est un parasite de l'abeille, ça, c'est sûr.
Et comment ça se traite alors, ce parasite ?
Alors, il y a plusieurs façons de le traiter. Nous, au Rucher École, on a une méthode bio à base d'acide oxalique, qui est un acide tout à fait naturel, que l'on introduit par différentes méthodes dans la ruche et qui a la propriété d'atteindre le varroa, qui est un parasite qui se met sur l'abeille. Et de les faire tomber, de les faire mourir. Et depuis 2 ans que on a établi cette méthode-là, un peu avec toutes les ruches des apiculteurs du Rucher École, ça a l'air de fonctionner. C'est-à-dire, on fait baisser la pression, on l'éradique pas, mais on fait baisser la pression du varroa sur les ruches. Ouais.
Et est-ce que les apiculteurs du Lot ont peur du frelon oriental maintenant? On a l'asiatique, maintenant on a l'oriental qui arrive.
Ouais, on en parle un peu. Pour l'instant, bon, on est comme tout le monde, on ne l'a pas trop vu, parce qu'il est surtout sur la région de Marseille, d'après ce que j'ai lu. Bon, il va arriver, hein, forcément. Après, est-ce qu'il est plus dangereux, tout dépend de sa colonisation. Hein. On n'en sait rien pour l'instant, on ne sait pas. Le frelon asiatique, c'est il y a beaucoup de recherches dessus pour l'éradiquer, pour travailler. En fait, ce qui est compliqué, c'est de l'attraper de façon plus mécanique sur le frelon lui-même, quoi. Mmh. Parce que il y a des pièges, mais malheureusement les pièges, ils piègent un peu tous les insectes, quoi. Mmh. Donc là, on essaye de travailler avec un laboratoire qui s'appelle M2I Biocontrôle, qui est sur Parnac et qui travaille sur les phéromones et qui essaye de piéger de façon plus sélective, très sélective, le frelon asiatique. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de résultats.
Il faut combien de temps pour être apiculteur, pour apprendre à être apiculteur?
Ah ben ça dépend des...
De motivation.
Les motivations, on les a tous. Mais c'est la qualité des gens, c'est la qualité d'observation, c'est la qualité d'écoute aussi, d'observation très importante. Globalement, on dit qu'il faut 3-4 ans pour commencer à voir les fruits de son travail. Et puis... on peut dire qu'on est un vrai apiculteur quand on a fini d'être apiculteur. Donc, maintenant, il faut entre 5 et 10 ans, je pense, pour se prétendre apiculteur. Moi, je me prétends pas du tout.
Et vous, ça fait combien de temps, vous, Philippe Labarthe?
Ça fait 3 ans et demi.
D'accord. Donc, vous considérez que vous avez encore beaucoup à apprendre.
Ah oui. Et c'est ça qui est c'est très intéressant, parce que bon, il y a des échecs, on échange beaucoup... C'est pas une science exacte, hein, donc on apprend à connaître la nature, à l'observer, à partager aussi avec les anciens, avec les gens plus expérimentés, qui chacun ont leur expérience. Elle est très régionale, donc c'est intéressant d'avoir des liens avec des apiculteurs du coin où on habite, quoi. Mmh. Mais non, je suis loin d'être un apiculteur chevronné.
En tout cas,
c'est ça qui est sympa.
En tout cas, vous êtes un passionné. Et j'imagine que cette conférence que vous organisez le 13 novembre, elle est faite pour les apiculteurs, les passionnés?
Alors, elle est en deux parties. Oui, le matin, elle est pour les apiculteurs du Rucher École. Donc elle sera très technique sur le traitement, la récolte, la conservation et l'utilisation de la propolis, de la gelée royale, et puis de la cire aussi. Bon, après, l'après-midi, ce sera beaucoup plus généraliste et ce sera ouvert au grand public. C'est un peu une nouveauté qu'on a instaurée cette année au Rucher École, parce qu'on en fait des conférences tous les ans, mais elles sont très ciblées, elles sont très, 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 très orientées sur les pratiques d'apiculture un petit peu spécialisées, quoi. Mmh. Et là, on ouvre au grand public pour sensibiliser les gens, pour échanger aussi avec des gens qui n'y connaissent rien, pour les amener vers l'apiculture. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles maintenant à ces thérapies un petit peu, j'allais dire, alternatives, hein, mais qui ont fait leur preuve. Hein. Le miel, depuis très longtemps, est utilisé en médecine, notamment dans les cicatrisations. Hein. À Limoges, il l'utilise dans l'université, la faculté de médecine de Limoges. Bon, voilà. Après, nous, on va découvrir aussi ce monde-là, parce qu'on ne le connaît pas trop. Et puis, on fait appel à quelqu'un qui est le docteur Cardinaux, là, qui est un des grands pontes de l'apithérapie, qui est un biologiste et qui va nous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans.
C'est assez incroyable d'ailleurs qu'une petite bête comme l'abeille nous fait, on va dire, des miracles avec ses produits, que ce soit la cire, que ce soit le miel, la gelée royale ou même le pollen de fleurs qu'elle a butiné. Est-ce que c'est ça justement qui fait cette empathie que l'on a pour elle? Parce qu'on est prêt à tout, hein, pour les protéger, les abeilles. Il n'y a pas si longtemps qu'on s'en rend compte, d'ailleurs, entre parenthèses.
Ouais, ben oui, ben c'est un marqueur de la biodiversité très très fort. Et puis maintenant, ben avec l'environnement que l'on connaît, toutes ces questions qui viennent sur le devant de la scène et dont on entend les résultats à la télévision pratiquement tous les jours, avec la COP 21 et voilà, donc c'est... On se rend compte que l'abeille est un des grands marqueurs. Bon, et elle a toujours été l'objet de l'admiration des hommes, hein, depuis des milliers d'années. Bon, on rappelle pas les Égyptiens, on rappelle pas les Romains, on rappelle pas Napoléon, on rappelle pas. Voilà, c'est fascinant, c'est un monde fascinant qui peut nous délivrer encore, qui a plein de secrets à nous délivrer. Donc. On va enlever une partie, enfin on espère en tous les cas, avec cette conférence sur l'apithérapie samedi prochain. Et puis voilà, on sait que le pollen a beaucoup de vertus vitaminiques, on sait que la gelée royale a beaucoup de vertus curatives aussi. Bon voilà, on va essayer d'y voir un peu plus clair, de voir comment on peut la conserver. On peut conserver tous ces produits, c'est pas si évident que ça. Les récolter aussi, hein, la propolis, c'est quelque chose d'assez fascinant. Ça a des vertus antibiotiques, antiseptiques que tout le monde connaît, mais c'est pas si facile que ça de la conserver et de l'utiliser. Quoi. Voilà.
Ça veut dire qu'on va apprendre tout ça. Dans cette partie, là, la première partie qui est réservée aux apiculteurs le matin, c'est ça en fait, vous allez apprendre à récolter tous ces produits. Ouais. Parce que en gros, si je comprends bien, on n'est pas forcément apte à le faire.
Alors certains si sont très simples à recueillir. Bon, le pollen, on a des pièges à pollen qui sont faciles à utiliser. La propolis aussi, hein, c'est facile à récolter, mais c'est pas comme ça se gratte. Il faut savoir comment la purifier, quelles sont les proportions, comment la conserver. C'est pas très très simple forcément. Après, j'ai des tas d'amis qui le font déjà, mais là peut-être qu'on aura une caution scientifique qui va nous dire exactement comment et pourquoi s'en servir. Ça c'est le plus important. Faut pas non plus lui attribuer trop de bienfaits ou trop de vertus que ces produits n'auraient pas. Quoi. Mais bon, on va voir tout ça samedi. Ouais.
Le docteur Nicolas Cardinaux, il se contente juste d'étudier ou est-ce qu'il a déjà testé les effets de la thérapie,
l'apithérapie? Il teste. Il est docteur en nutrition, directeur scientifique de Pôle Énergie, qui est une enseigne que lui-même dirige, hein. Et puis il est membre d'un conseil scientifique des associations francophones. Enfin bon, c'est quelqu'un de très très connu et qui utilise ça, oui, depuis longtemps, ouais. Il y a pas mal de médecins, de professeurs de médecine, de médecins qui sont orientés là-dessus, hein. Alors après, je vous dis, c'est toujours pareil, quoi. Il faut faire la part des choses, il faut être modéré dans les propos, ça remplace pas tout, mais ça peut être utile et ça peut en tous les cas apporter des compléments. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir, des compléments aux traitements qu'on a l'habitude d'utiliser pour soigner les pathologies dont on souffre actuellement.
Puis c'est à la bonne date, en plus le 13 novembre, c'est le moment où il faut se retaper un petit peu pour le changement de saison, une bonne cure de gelée royale, il faut savoir la prendre comme il faut, donc on imagine qu'il y aura une interaction entre les participants à la conférence et le docteur Cardinaux.
Ah oui, tout à fait, c'est ce qu'on souhaite, l'après-midi, on veut vraiment voir le matin, ce sera le cas, parce que on sera moins nombreux, donc il y aura des... Ce sera très interactif. Après l'après-midi, on verra comment ça se déroule. Mais on souhaite vraiment qu'il y ait des interactions de ce côté-là, bien sûr. Mais la gelée royale, par exemple, c'est une vraie question parce qu'il y en a très peu dans les ruches. Alors il y a des apiculteurs qui s'en sont fait une spécialité de la culture et de la récolte de la gelée royale en élevant des rennes justement. Mais sinon, dans une ruche classique, je vais dire, il y a très très peu de gelée royale. C'est vraiment infime. Donc c'est pour ça que ça vaut assez cher et que quelles sont ses vertus exactement. Moi, je demande à apprendre. J'ai lu pas mal de choses. Il vaut mieux avoir affaire aux gens qui savent vraiment plutôt que aux choses un petit peu plus terre à terre qu'on a l'habitude de lire.
Et d'autant plus que la gelée royale, en plus, il n'y en a pas assez en France pour couvrir toute la demande. Donc c'est vrai que là, ça vient de l'étranger, d'où la nécessité d'être très prudent aussi. Faut pas que ça vienne de Chine, quoi. Ça sert à rien, c'est idiot.
Voilà. Alors déjà, au niveau de la facture énergétique, on n'en parle même pas.
Ouais.
Mais on ne sait pas d'où elle vient. C'est-à-dire que la traçabilité là est vraiment très aléatoire. Et après c'est un vrai commerce, c'est très compliqué parce que comme il y en a peu, que c'est très rare, il y a des gens qui en font le commerce. Alors est-ce que c'est pur, est-ce que c'est dilué, est-ce que c'est mélangé avec des produits qu'on ne connaît pas, j'en sais rien. Je pense qu'il va nous dire ça justement, et peut-être que les apiculteurs peuvent aussi, moi j'en ai pas donc je connais pas grand monde qui en cultive, enfin qui en récolte, alors d'infimes quantités. Mais peut-être que ça vaudrait le coup qu'on se penche là-dessus en tant que rucher école justement, ou qu'on fasse un peu d'enseignement là-dessus, parce que c'est un de nos objectifs dans le rucher école, c'est de la pédagogie, c'est de travailler un peu sur les personnes, les adultes là, comme on va le faire le 13, mais aussi sur les enfants, on intervient dans les écoles, on essaye de... C'est une des missions de notre rucher école, et qu'on valide de plus en plus parce qu'on a créé un service civique qu'on emploie tous les ans maintenant, sur ce sujet particulièrement, sur la pédagogie. Quoi, voilà.
Est-ce qu'il y aura...
C'est dédié à ça.
Est-ce qu'il y aura des produits de la ruche en vente d'ailleurs après cette conférence? Ça peut peut-être donner envie, et surtout des produits de qualité.
Alors c'est pas prévu. C'est pas prévu. On a voulu, on l'a un peu fait exprès parce qu'on voulait pas non plus en faire une vitrine, j'allais dire commerciale. Là ça restera assez théorique et peut-être que ce sera l'occasion de refaire quelque chose l'année prochaine. Bon. On ne sait pas encore. Là, en fait, pour tout vous dire, c'est la première fois qu'on ouvre ça au grand public.
D'accord.
Donc, on est un peu naïf et un petit peu interrogatif. On ne sait pas du tout si les gens vont venir. On ne sait pas si ça va les intéresser. On ne fait pas ça pour l'argent, puisque c'est entièrement gratuit. Alors, si les gens veulent donner, ils donnent, tant mieux. Ça couvrira un peu une partie des frais. Mais on ne le fait pas pour ça. C'est-à-dire qu'on le fait vraiment pour échanger avec les gens et pour les sensibiliser. Et la pithérapie, c'est pas mal parce que ça intéresse beaucoup de gens, ça peut donner des idées à pas mal de gens, et par cet intermédiaire-là, sensibiliser les gens aux problèmes des abeilles en France, parce que c'est vrai que plus il y aura d'apiculteurs, plus il y aura d'abeilles, mieux ça sera.
Philippe Labarthe, la première partie avec les apiculteurs, il faut déjà être apiculteur, ou est-ce que quelqu'un qui veut seulement s'y mettre peut venir participer?
Ah, il vaut mieux l'être. Franchement, il vaut mieux l'être.
Ça sera plus technique.
D'abord parce que, c'est très technique. Je sais pas quelle tournure ça prendra exactement, mais je pense, c'est un des quand on n'est pas apiculteur soi-même, c'est un petit peu compliqué parce que, il y a un problème de langage, il y a un problème de vocabulaire, il y a un problème de technologie. Si on connaît rien, moi, je vous avoue, la première année, je comprenais pas tout ce qu'on me disait, quoi. Donc il y a des étapes à franchir, c'est comme à l'école. Faut apprendre la physiologie de l'abeille, il faut apprendre le fonctionnement d'une ruche, et puis après observer, beaucoup observer. Et puis, mais je pense que quand on n'est pas apiculteur, même disons 2-3 ans, enfin voilà, comme je suis moi, je pense que c'est un peu compliqué. Par contre, l'après-midi, oui, ça peut être très intéressant. Ouais.
Donc rendez-vous le 13 novembre pour une conférence sur l'apithérapie. Alors si vous êtes, on a bien compris, si vous êtes apiculteur, eh bien vous êtes attendu dès le matin, hein, c'est possible, pour en apprendre encore un peu plus sur votre passion et sur les abeilles, et notamment sur l'apithérapie. Et puis pour le grand public, eh bien on vous donne rendez-vous à l'espace Murat de la Bastide Murat ce samedi 13 novembre de 14h à 17h avec le docteur Nicolas Cardino qui parlera des bienfaits des produits de la ruche. L'entrée est de libre participation. Malheureusement, il faut le pass sanitaire, hein, comme un peu partout en ce moment. C'est parce que vous n'avez pas trop le choix. Hein. C'est la loi. Sinon, c'était non, quoi. Ça ne pouvait pas être fait, quoi. Et donc, c'est aux ruches et écoles de Rocamadour. Il y a une page Facebook, un site internet où on peut vous trouver.
Ah oui, tout à fait. On a un site internet. Vous tapez Rocher École Rocamadour, c'est un site internet qui marche très très bien, qui est tenu à jour, et on a une page Facebook aussi. Mais le site est vraiment très très bien fait, vous y trouverez tous les éléments concernant la conférence sur le site.
Merci beaucoup Philippe Labarthe.
Je vous remercie, et merci de votre interview, c'était sympa.
Si on parlait du documentaire qui va se dérouler au Grand Palais de Cahors, et ça commence d'ailleurs dès demain, puisque nous sommes dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et là, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Cahors et ses partenaires vous invitent à participer aux actions se déroulant donc durant le mois de novembre. Alors on aura l'occasion de parler de ce qui se passera le 25 novembre, mais demain d'abord, et c'est aussi dans le cadre non seulement de cette journée internationale et aussi dans le mois du documentaire au Grand Palais, et bien l'ensemble des professionnels locaux et la ville de Cahors proposent au grand public Les Rives du Destin d'Abdolreza Kahrani. C'est à 18h30 au Grand Palais avec le soutien d'Amnesty International de Cahors. Projection du film en présence de la distributrice du film Saïda Kasmi et de l'avocate au bureau de Cahors Amélie Tintillier. L'histoire c'est celle de Samira, jeune mère à peine divorcée qui quitte sa province avec sa fille pour revenir s'installer à Téhéran. Déterminée à se construire une vie de femme indépendante, elle cherche un travail et un logement décent pour sortir de la précarité, et ce choix de vie l'oppose à son ex-mari violent, à son entourage divisé et aux mentalités iraniennes conservatrices. Alors coûte que coûte, Samira tente de surmonter les divers obstacles rencontrés sur son chemin. L'entrée est tout simplement de 6 € pour les personnes par séance, et c'est 3,50 € pour les moins de 25 ans. Ça commence donc demain avec Les Rives du Destin. Et puis dans le mois du documentaire au Grand Palais, c'est également jeudi 11 novembre à 18h30 avec La Graine, les particules et la lune. C'est une rencontre avec la réalisatrice Dune Dupuis. Le mardi 16 novembre, c'est One More Jump, un débat animé par Jean-Guy Greisheimer de l'Union juive française pour la paix. Le jeudi 18 novembre à 18h30, c'est Thilo Cotto avec c'est une discussion en présence de la réalisatrice Valérie Malek dans le cadre du festival Migrants Scène. Samedi 20 novembre à 19h, c'est Pingouin et Gants Élan, une séance précédée d'un vernissage dans le cadre de la journée du droit des enfants à 18h. Le mardi 23 novembre à 18h30, c'est À la vie, discussion avec des sages-femmes avec le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes du Lot. Puis à 21h15, avant-première du film L'événement d'Audrey Piwan sur l'avortement. Et puis enfin, vendredi 26 novembre à 18h30, permaculture, débat avec l'association Fildome et l'association Cahors Autonomie Alimentaire. Donc je rappelle, c'est 6 € la séance, 3,50 € pour les moins de 25 ans. Et le programme complet du mois de doc est à voir donc sur le site du Grand Palais, cinélegrandpalais.fr. Et ça va durer, effectivement, c'est la deuxième édition, ça va durer tout le mois de novembre. Voilà, si ça vous intéresse, eh bien, faites-vous plaisir, plein de documentaires sur des sujets très divers et variés. C'est la fin de ce magazine, à retrouver en rediffusion tout à l'heure à 17h, également à 21h30. Et puis dans un instant, eh bien, on reste ensemble pour la programmation et le journal.